Émission En Jazz sur les ondes de Boulevard 102.1. Votre émission du midi, on décortique l'actualité pour vous, on vous tient au courant des grandes nouvelles. On analyse la politique avec nos excellents chroniqueurs et collaborateurs. D'ailleurs, le caucus avec Antonine Iaccarini qui va suivre dans quelques instants. On va également avoir Rémi Villemur tout à l'heure aux alentours de 13h10. Pour nous joindre, vous le savez, le numéro par texto 418-971-1021. Intéressez-vous avec nous, on aime toujours ça. J'aime lire des textos, j'aime répondre à vos textos, donc n'hésitez jamais. BLVD.fm, ça inclut la web radio et c'est également les meilleurs moments de l'émission qui se retrouvent à cet endroit. Chronique de Lambert Drainville hier où il a pété une coche sur le troisième lien. C'est disponible sur BLVD.fm. Lambert Drainville qui va être l'invité de Marceau le soir, Pascal CV ce soir, c'est bien ça, hein?
Exactement. Alors, on va jaser politique, puis surtout d'enjeux très actuels.
Oui, et d'enjeux familiaux aussi, parce que quand même chroniqueur d'actualité politique, puis son père est dans la course à chefferie à CAQ, puis il est en train de mettre le désordre dans cette course-là. Également l'application Boulevard 102.1, App Store, Google Play Store, téléchargez ça, vous pouvez nous écouter partout où vous allez. Twitch.tv/BLVD/FM, c'est pour venir voir nos belles faces en studio. Vous pouvez interagir également sur le Twitch et abonnez-vous à notre page YouTube. Les amis, vous pouvez retrouver de l'excellent contenu, dont notamment les podcasts hors série, le podcast que j'ai enregistré avec mon cousin Eric sur la prévention du suicide s'y retrouve depuis mardi. Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va très bien. J'espère que toi aussi, là, je suis encore en train de lutter contre ce virus qui prend d'assaut une coupe de corps, mais on va tous en sortir. Hein?
Ah non, ça va super, super bien. Bel entraînement hier, belle pratique avec mes midgets. J'ai bien aimé ma soirée. Antonine Iaccarini, comment ça va?
Ça va très bien.
Good. Anto qui est avec nous aujourd'hui à distance via la plateforme Zoom. Avant de passer au caucus, justement, Pascal CV, est-ce que tu peux nous résumer quelques nouvelles de l'actualité, mettons les trois plus importantes? Il y a beaucoup de choses de judiciaire, si
je m'abuse. Il y a un ado de Québec qui est accusé de terrorisme par la GRC. C'est un jeune homme qui aurait fait la promotion d'un groupe néo-nazi qui était inscrit par le gouvernement canadien sur sa liste des entités terroristes. Alors oui, très judiciaire. Sinon, Mark Carney a pris la parole. Véhicule électrique, bien, Ottawa veut ramener les subventions jusqu'à 5 000 $. Il y a quand même des particularités là-dedans. On en jasera un peu plus tard. Les travailleurs de la santé seront tous admis où? Bien, dans le programme de l'expérience québécoise, c'est ce que promet Jean-François Roberge. Alors, il s'engage à admettre 6 300 employés du réseau de la santé visés par l'abolition du programme de l'expérience québécoise. Ça aussi, c'est dans les nouvelles. Et je vais faire un clin d'œil à ce qui se passe du côté de Toronto. Complot fusillade. En fait, c'est un des plus gros complots qu'on a vu du côté de la police de Toronto, et ce, depuis toujours. Trafic de stupéfiants. Il y avait un genre de stratagème parmi les policiers de la police de Toronto. C'est 7 policiers et l'ex-agent de paix à la retraite qui ont été arrêtés à Toronto aujourd'hui.
Énorme comme arrestation à Toronto. On va continuer à suivre ça pour vous. Évidemment, Boulevard 102.1.
Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Pascal Paradis va être avec nous aux alentours de 12h30 via téléphone. On veut parler du troisième lien avec le PQ. Qu'est-ce qu'il en pense de cette crise-là? Mais avant de parler de ceci, on va rejoindre Antonine Iaccarini dans le caucus. Anto, écoute bien ça. Le PLQ se peut plus, on a chanté nananana et goodbye à la gang à Pablo Rodriguez. C'est fini, ils sont à la porte, tout le monde, on repart à neuf.
On repart à neuf. J'ai pas entendu ta clip en passant.
Ah non, tu l'as pas entendu, c'est de valeur, c'était la chanson nananana. Nanana, goodbye.
Oui, on repart à neuf. Est-ce que le Parti libéral peut vraiment mettre tout ça derrière lui aussi rapidement, à ton avis?
Je ne penserais pas. Moi, je pense que le Parti libéral, le mot « corruption » est revenu leur coller à la peau. Et même si Charles Milliard va être un neuf en politique, ça va être très difficile pour lui de détacher cette étiquette-là pour la prochaine élection du mois d'octobre 2026.
Moi, je vois vraiment trois défis pour Charles Milliard. Là. Le premier, ben, c'est de reconstruire le lien de confiance. Puis c'est ce que tu viens de dire, c'est que l'étiquette de corruption, quand tu as une enquête de l'UPAC qui te pend au bout du nez, Même si M. Milliard arrive effectivement en étant un peu neuf, avec pas trop de casseroles après ses chevilles à lui, le parti, lui, traîne des casseroles, évidemment, puis on attend les conclusions de plusieurs enquêtes, là, puis notamment de l'enquête interne. Hein. Vous vous rappelez que le Parti libéral du Québec a déclenché une enquête interne qui l'a confiée au juge Fournier. On attend les conclusions. Ils sont censés avoir reçu ce rapport-là à la fin du mois de janvier. Donc,
on avait parlé du 31 janvier. Là, on est rendu le 4 février. Il ne faudrait pas attendre au 18 mars, là.
En tout cas, si j'étais eux, je me dépêcherais peut-être d'évacuer tout ça, mais ils seront pas au bout de leur peine pour autant, compte tenu qu'il y a aussi le directeur général des élections, l'UPAC et la commissaire à l'éthique qui s'intéressent à leur cas. Donc ça, c'est le premier défi de M. Milliard. Le deuxième défi de M. Milliard, c'est d'exister, parce que la course à la chefferie de la CAQ s'abrasse. On va en parler dans un petit instant, parce que ça aussi, c'est très croustillant. Il se passe plein de choses, on mange du popcorn. Mais pendant ce temps-là, quand tu es un nouveau chef de parti dans une année électorale, faut quand même que tu puisses avoir un peu d'oxygène pour exister. Pas facile pour M. Milliard d'exister en ce moment. Bon, là, tu vas me dire, il n'est pas encore chef officiellement. Je veux bien, mais le temps presse. Le PLQ n'avait pas prévu avoir une course à la chefferie cette année.
Attends une minute, Antonine. J'ai vu la dernière publication de Mario Roy qui l'a dit que c'était pas terminé avant le 13 février. Il y a eu 5 personnes qui ont fait le pouce en l'air puis un commentaire pour lui dire « lâche pas mon Mario ». Donc, ça va bien. On avance.
Il y a un momentum, je pense. Mais c'est terrible. Imaginez pour un parti avoir quelqu'un comme ça. T'sais, ils lui ont dit très clairement à M. Roy qu'il ne voulait pas l'avoir comme candidat. Là. Puis je pense que c'est de l'acharnement. Le troisième défi de M. Milliard, ben, c'est de refaire l'unité au sein de son parti. Parce que ça continue aussi de brasser entre Geneviève Hinze et Marois Risky. La cause est maintenant judiciarisée. Hier, vous en aviez discuté, là, ça s'envoie des versions des faits d'un côté et de l'autre. Mais la décision de réintégrer Marois Risky, c'est pas évident. Et à voir comment ça s'est passé avec la directrice de cabinet qui avait été choisie par le chef précédent. Je suis pas certaine, moi, que le fruit est mûr pour réintégrer aussi rapidement que ça Marois Risky. Et si Charles Millard refuse, Marois Risky est quand même quelqu'un d'extrêmement apprécié du grand public. C'est une de leurs députées les plus populaires. Donc, c'est un peu deux options pas très bonnes qui se présentent devant lui dans ce cas-ci.
On écoute ce que Charles Milliard avait dit à cet effet-là le 28 janvier dernier sur nos ondes, ici même à Boulevard 102.1, dans l'émission On en jase.
Alors, j'ai mentionné que j'allais la rencontrer prochainement. Pour moi, je me cache pas de ça. Ça fait partie de ma job de candidat.
Parce qu'elle vous a quand même aidé là, à devenir chef du PLQ. Là, avec
mais
elle
quitte en même temps.
C'est bon, une aide très indirecte. Mais tout ça pour dire que je vais avoir une discussion avec elle. C'est une parlementaire redoutable. Puis Greg Kelly, qui est son mari, fait partie de mon équipe.
Alors, il a réintégré le caucus hier.
On convient que c'est une situation qui est spéciale. On ne fait pas semblant. Mais je vais rapidement prendre une décision. Mais avec le caucus, moi, je suis un joueur d'équipe. La politique, c'est un sport d'équipe, même s'il y a des statistiques individuelles. Donc, rapidement, je reviendrai vous voir, si vous voulez, pour vous faire part de ma décision, mais je ne prendrai pas une décision avant d'être chef.
Donc, on attend Charles Milliard qui va revenir nous voir avec sa décision. Puis, Anto, tu as justement abordé le sujet que je voulais aborder avec toi, la popularité de Marois Risky. Et comment c'est important dans une année électorale de démontrer de l'unité. Puis là, ça nous amènera à parler de la CAQ après. Mais pour le Parti libéral, il n'y a comme pas le choix de trouver la voie de passage pour qu'elle revienne au caucus puis que les libéraux essayent d'aller par en avant. Mais là, je pense à un Marc Tanguay, un Moncef Déragé, un André Fortin, qu'eux autres n'ont pas fléchi, sont restés droits puis enfrontés à tempête. Ça ne leur tente pas de voir Marois Risky assis à côté d'eux autres.
Ouais, puis tout ça se rapporte à comme qu'est-ce que vous avez compris de la crise qui s'est passée au Parti libéral, parce que on peut avoir différentes interprétations, étant donné que Mme Risky a choisi comme méthode de travail de mettre dehors la directrice de cabinet sans parler avec son chef, sans s'attacher avec ses collègues au préalable. Donc, est-ce qu'elle a eu raison ou non? Il y a des gens qui pensent que oui, il y a des gens qui pensent que non. Maintenant, la cause est encore devant les tribunaux. Il va y avoir des rebondissements. Les collègues, je pense qu'ils sont capables d'être pragmatiques et de se dire « c'est une joueuse importante du caucus libéral », mais à partir de quel moment elle devient aussi une distraction continuelle? Est-ce que, comme députée indépendante, finalement, ce ne serait pas mieux, par exemple, de faire des projets ensemble ou des alliances ponctuelles plutôt que de la réintégrer complètement? Je me pose la question.
Sachant qu'elle va quitter, ça serait un bon air d'aller de la conserver puis de la garder à l'interne, vu justement cette opinion favorable du public?
Ben, c'est ce qu'on dit, c'est que il faut peser les pour et les contre. C'est une bonne joueuse, elle est populaire, tu veux montrer de l'unité, mais en même temps, si tu en voulant montrer de l'unité, finalement, tu crées des conflits à l'interne. Finalement, est-ce qu'à plus long terme, c'est vraiment l'idéal pour le Parti libéral? Il n'y en a pas de solution idéale, c'est ça la réponse. Et je pense que si Mme Risky avait joué ses cartes différemment, c'est-à-dire de... Peut-être, effectivement, que ça aurait terminé pour un congédiement pour Mme Hintz. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas la vérité sur ce dossier-là. Mais si elle avait impliqué son chef dans sa décision, puis si ça avait été quelque chose qui avait été fait ensemble, si les lignes directrices là, qui étaient la pomme de discorde entre les deux femmes avaient été discutées aussi avec le chef, est-ce que le parti en serait vraiment là? La question se pose.
On est en plein caucus avec Antonine Iaccarini. C'est un segment de l'émission On en jase du lundi au jeudi. De midi 5 environ à midi 25, midi 30. Anto, passons à l'autre crise d'unité, celle de la CAQ. Une course à la chefferie qui est spectaculaire. Je l'aime, mon Bernard.
Il te divertit.
Oui, c'est ça. Il me divertit vraiment. Et on va réentendre, on l'a écouté hier avec Victor Henriquez, mais on va réentendre ce qu'il a dit hier à propos du leadership de Christine Fréchette, l'autre candidate à la chefferie de la CAQ.
Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, Mme Fréchette soit incapable de prendre une position en faveur du projet. C'est pas comme si le troisième lien était une surprise dans cette campagne. Ces tergiversations nuisent à la crédibilité du projet, nuisent à la crédibilité du gouvernement et nuisent à la crédibilité du parti. Comme premier ministre, il faut savoir prendre des décisions. Parce que, comme le veut l'expression, tout ce qui traîne se salit. Un chef de gouvernement doit savoir décider et être capable d'assumer ses décisions. C'est une question de leadership. Je dirais même, dans ce cas-ci, c'est un test de leadership. L'ambivalence et l'hésitation de Mme Fréchette n'envoient pas un bon signal dans ce dossier, comme dans les autres dossiers où elle est incapable de prendre sa décision. L'indécision est la pire des décisions.
Antonine, l'indécision est la pire des décisions. Bernard Drainville qui a remis en cause le leadership de Christine Fréchette dans un scrum improvisé devant les journalistes. T'en penses quoi de tout ça? Parce que là, c'est divisé à la CAQ. Il y a des gens qui ont trouvé ça non élégant, notamment Gilles Bélanger, ministre au niveau de la cybersécurité, qui a appuyé Christine Fréchette beaucoup trop tôt, mais qui l'a appuyé quand même. Louis Provençal, député de Beauce-Sud, qui, lui, est dans l'équipe Bernard Drainville, mais qui est du même avis que Gilles Bélanger. Alors que Samuel Poulain, un jeune député et ministre au niveau de la CAQ, qui est dans le camp de Bernard Drainville, a dit « Non, c'était bien correct. » Elle doit prendre une décision.
Bon, là, tout le monde défend son poulain là, dans cette histoire-là. Nous, on ne défend personne. Okay? Fait que je pense qu'on est capable objectivement d'analyser la situation et de se dire que, sur le fond des choses, M. Drainville a raison. Dans le sens que c'est vrai que ce n'est pas nouveau comme dossier et c'est vrai que ce n'est pas une position très confortable pour personne d'avoir une candidate à la chefferie qui dit « je suis en train de réfléchir » parce que ça nous rappelle les tergiversations aussi à l'époque de M. Legault. Et on le sait que ça fait partie des choses qui ont coulé la CAQ d'avoir changé d'idée plusieurs fois. La position de M. Drainville, elle est claire, mais c'est sûr, tu es député de Québec, il a toujours été pro-troisième lien, il est très cohérent dans tout ça. Alors que pour Mme Fréchette, on se doute qu'elle est moins chaude à l'idée, on va dire ça comme ça, puis c'est une députée de Montréal aussi. Donc, son silence laisse entendre qu'elle n'est pas nécessairement là, très favorable au projet. Sur le fond des choses, c'est tel que tel. Mais maintenant, sur la forme, là, en parlant d'unité, on parlait d'unité avec le Parti libéral il y a un instant, la CAQ aussi va devoir refaire l'unité en année électorale. Donc, M. Drainville, ce qu'il est en train de faire, c'est d'essayer de brasser la cage puisque la tendance est plus favorable à Christine Fréchette. Mais en brassant la cage, il brasse son parti aussi et il rend plus difficile l'unité là, par la suite. Parce qu'on est dans des attaques. T'sais, il n'est pas allé de main morte. Là. Il a dit à peu près 15 phrases pour dire que Mme Fréchette, en gros, n'avait pas de leadership.
Ben écoute, c'est un extrait d'une minute 8 secondes qui aurait pu se résumer en « Christine Fréchette manque de leadership, elle devrait appuyer le projet du troisième lien.
C'est pas une petite phrase échappée là, à la fin d'un point de presse. Là. C'était une attaque, là. Il martelait son message. Donc ça, c'est un choix qu'il fait parce que lui, il considère que s'il ne brasse pas la cage, il n'y a pas de chance de l'emporter. Puis c'est pour ça aussi qu'il demande un troisième débat dans cette course à la direction, ce qui n'est pas à l'avantage du meneur, généralement. Hein. C'est les challengers qui veulent avoir plus de débats. Mais en même temps, il faut quand même garder en tête pour M. Drainville qu'il va falloir partir en élection au mois d'octobre. Là. Donc, faire attention pour ne pas tout scraper non plus le véhicule ou le chef, le prochain chef. Parce que c'est ça aussi, c'est que si M. Drainville joue le tout pour le tout, mais qu'il magane Mme Fréchette et qu'elle devient chef, ben les oppositions vont évidemment exploiter tout ça et jouer là-dessus, exactement.
J'entendais des commentatrices de la politique également hier, mais qui ont fait de la politique, donc qui étaient ministres ou autres par le passé, dire qu'ils voyaient ça un petit peu genré, qu'ils trouvaient que c'était une gang de bonhommes qui s'attaquaient à Mme Fréchette en diminuant le fait qu'elle prenait du temps pour réfléchir à une grande question, à un grand enjeu. Est-ce que tu le vois de la même manière, toi, Antonine?
J'y vois une dimension un peu genrée, oui. Par contre, moi, je fais partie de ceux qui pensent qu'à ce stade-ci, là, les gens devraient avoir une opinion quand même sur le troisième lien. Mais je sors du dossier du troisième lien pour dire que c'est facile de coller à une femme l'étiquette de « elle n'a pas de leadership, elle est indécise, elle n'est pas solide ». Parce que, évidemment, si on regarde les stéréotypes là, dans la vie, là, des messieurs confiants, là, vous savez, là, je fais souvent des blagues avec la confiance infinie de l'homme blanc. Là. C'est facile de regarder un peu le style un peu différent de certaines femmes élues qui vont parfois être un petit peu plus dans la consultation, un peu moins dans la précipitation. Mais je trouve que dans le cas du troisième lien, honnêtement, la décision me tanne un petit peu, me tape un peu sur le chou, étant donné que, je veux dire, on en parle depuis des années. Avant de se lancer dans une course à la direction, peut-être avoir une position.
Est-ce qu'on est dans les cas typiques, parce que tu nous avais déjà parlé ici, on en jase, de deux, je pense que c'est deux animaux que tu donnais en termes de personnalité politique. Je me souviens pas, mais quelqu'un qui prenait un petit peu plus de temps pour se positionner, puis quelqu'un qui évaluait pas tous les risques, mais qui allait de l'avant.
Ah oui! Alors, ça nous vient de Jean-François Lisée, cette analogie. Donc, c'est les colombes et les faucons. Et moi, je me considère comme... En fait, il m'avait étiqueté comme étant une colombe qui est très prudente, qui ne veut pas faire de vagues, alors que les faucons, ils foncent la tête baissée puis ils attaquent. Bien, effectivement, dans la course à la direction de la CAQ, Bernard Drainville a décidé d'être un faucon, visiblement, et d'être plus à l'attaque. Mais c'est sa seule chance, parce que la semaine passée, on les a vus, les sondages. Il y en a eu d'autres en début de cette semaine, qui démontre que Mme Fréchette a une certaine avance. Donc, il faut qu'il change la conversation s'il veut réussir à se démarquer. Et il connaît tous les trucs dans le livre. C'est un politicien qui est très expérimenté et qui est très intelligent, là, M. Drainville.
Alors, pourquoi ça deviendrait un débat genré? Parce que je te l'avoue, je ne suis pas d'accord avec toi pour tout. Christine Fréchette, elle se présente pour être première ministre du Québec. Fait qu'elle a besoin de leadership et a besoin de savoir affronter la tempête. Quand
t'es
première ministre, tu sais, François Legault n'a mangé ses bas dans les trois dernières années. Je n'ai pas entendu aucun chroniqueur dire « Ah, pauvre François Legault, c'est un homme, on l'attaque parce qu'il est un homme. » Donc, pourquoi on attaquerait Christine Fréchette parce que c'est une femme?
Je pense pas que les gens l'attaquent parce que c'est une femme, mais je pense que c'est un terreau particulièrement fertile d'essayer de mettre une étiquette de quelqu'un qui n'a pas de leadership sur une femme, parce que le leadership, ça peut prendre plusieurs formes différentes. Puis encore une fois, je répète, sur le fond, sur le troisième lien, je suis en désaccord avec la position de Mme Fréchette. Par contre, c'est vrai que c'est un terreau fertile, parce que dans la tête, un peu dans nos croyances qui sont très ancrées, du leadership, c'est parler fort, c'est aller vite, c'est être sûr de son affaire, puis c'est... Moi, je le sais. Alors que du leadership, si je pense à une Véronique Yvon, par exemple, députée du PQ, qui a fait atterrir toutes sortes de projets, pas de manière précipitée. Puis c'est vrai que c'était long. Puis des fois, les gens, ils essayaient de lui mettre l'étiquette d'indécise à Mme Yvon. C'est bien, il faut qu'elle consulte tout le monde avant de faire quelque chose. Mais l'aide médicale à mourir, là, je m'excuse, mais c'est quand même un succès. Et d'avoir réussi à passer ça sans opposition, ça a pris plusieurs années. C'est aussi une forme de leadership. Donc, moi, je pense pas que les gens attaquent Mme Fréchette parce que c'est une femme. Mais je pense que ça fonctionne particulièrement bien, ce genre d'attaque, où on dit, voyez, ça, c'est pas du leadership. il y a plusieurs formes de leadership possibles en politique.
Oui, je suis d'accord pour toi, ça serait une critique générale, ça serait genré, mais dans le cas du troisième lien, écoute, ça fait 10 ans, on peut-tu prendre une décision, oui ou non, merci, bonsoir.
On est d'accord.
T'sais, affirmons-nous, là, si elle est contre, si elle est pour, elle est pour, mais qu'elle fasse la campagne avec. Hey, je veux continuer sur Bernard Drainville, parce que moi, tu sais, Antonine, je suis une petite bébite spéciale, j'aime ça écouter les points de presse à l'Assemblée nationale le matin.
Ben oui,
je termine l'émission à 10h, il y a eu des points de presse entre 8h et 10h, puis je m'en vais réécouter ça. Je tombe souvent sur des petits bijoux et je suis tombé sur ce bijou-là de Pascal Bérubé. On écoute.
Est-ce qu'il y a encore de la place pour M. Drainville au PQ?
Il y a de la place pour les indépendantistes au Parti québécois.
Ouvrir, vous avez déjà dit le contraire ici, en disant qu'il n'y a pas de place pour les caquistes au Parti québécois.
Ils ne sont pas indépendantistes, les caquistes.
Il y en a.
Qui?
Non, je ne veux pas vous faire du name dropping. Là, vous les connaissez, là, vous avez plein de vos anciens collègues qui sont traversés pour les travailler.
Nous,
pour
la on cible l'électeur. D'accord. Ouais. Alors, si vous êtes indépendantiste, si vous trouvez qu'on travaille bien, si vous trouvez qu'on a une belle équipe, si vous aimez notre chef, il y a plein de raisons de nous rejoindre.
Hey, la porte n'est pas fermée pour Bernard Drainville par Pascal Bérubé. Mmh. Et je retiens la fin. Nous, on cible l'électorat. Alors, si vous aimez notre chef, hey, à Lévis, Bernard Drainville, il est populaire à peu près. Il arrête pas de le dire en entrevue, Pascal. N'oubliez pas les gens de Lévis. Comment ça, la porte s'est pas fermée?
En fait, j'ai vraiment une interprétation complètement contraire à la tienne, Jeff. Moi, quand Pascal Bérubé dit qu'il y a de la place pour les indépendantistes, il dit à demi-mot que Bernard Drainville n'est plus indépendantiste. Et la porte, je vous le dis, là, elle est fermée à double tour. Pour Bernard Drainville. Il a eu, dans les derniers mois, dernières semaines, des propos très durs contre le référendum. Il a dit « ça prend pas de référendum, c'est terrible », puis il est passé à autre chose. Puis quand les gens disaient « alors vous êtes devenu fédéraliste », il se défendait pas de ça. Donc, je peux vous dire que c'est pas ce que M. Bérubé voulait dire. Par contre, c'est vraiment important ce qu'il a dit aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'il y en a des indépendantistes à la CAQ, autant dans l'électorat que dans les employés. Mm-hmm. Moi, je suis indépendantiste. C'est pas ma priorité de tous les instants, mais je pense que le Québec devrait être un pays. Je vais travailler à la CAQ. Maintenant, je comprends que le PQ ne veut pas nécessairement prendre des anciens staffers. Moi, je n'ai pas l'intention de revenir en politique, fait que je ne parle plus de moi, là, je parle en général. Ce qu'il dit, c'est que si vous avez travaillé à la CAQ, vous ne pouvez plus revenir au PQ. Par contre, si vous avez voté pour la CAQ, vous êtes un électeur qui avait voté pour la CAQ, bien sûr qu'on veut votre vote, les amis. Mais le PQ ne prendra pas de transfuge qui arrive de la CAQ, qui considère que les gens qui sont allés à la CAQ sont un peu des opportunistes et ils ne veulent pas avoir ce genre de transfuge-là, alors qu'ils ont ouvert la porte à Vincent Marissal. Mais écoute, ça marche à gauche, mais ça marche pas de l'autre côté. Mais ils ont un enjeu, le PQ, parce que... Souvent, on a l'impression qu'il y a des tests de pureté. Hein? As-tu le droit d'être péquiste? Es-tu pur? Est-ce que tu coches toutes les cases? Alors que si tu veux réussir à monter, ils sont à 34% dans les sondages.
Oui, ça dépend du sondage, là, entre 33 à 36. Là.
Mais si tu veux faire un pays, tu as besoin de plus que 36%. Ouais, tu as besoin de 50% plus qu'un.
Puis là, ce matin, le sondage somme parmi les gens que leur priorité est l'indépendance, 10% des Québécois. Pas fort, là.
Ben, puis je suis contente que les sondeurs aient commencé à faire des nuances, parce que c'est pas juste oui-non, c'est quoi ta priorité dans la vie aussi, puis ton niveau d'urgence de faire la souveraineté, ça aussi c'est important, et ça en dit beaucoup sur les intentions des électeurs. Mais le point, c'est que on a l'impression des fois qu'au PQ, souvent les militants aussi sont très agressifs, ils attaquent beaucoup sur les médias sociaux, ils traitent des fois les gens de fédéralistes, de fédérastes, de colonisés, de... T'sais, à un moment donné, il faut aussi qu'ils attirent le monde, qu'ils donnent le goût aux gens de venir auprès de leur projet. Puis un pays, ça se fait pas à 3-4 personnes qui ont raison dans le salon, là. Pour
Antonine,
rassembler.
T'es-tu pour la laïcité?
Oui.
T'es-tu pour le fait qu'on va serrer les quotas d'immigration?
Oui.
T'es-tu nationaliste?
Oui.
Parfait. Tu peux être au PQ.
Oui, merci Jeff, mais je pense qu'il voit les choses autrement des fois de l'autre côté. Mais t'as tellement raison, mais c'est un défi de rassembler pour le PQ de Paul Saint-Pierre Plamondon.
On termine avec le continuant de François Legault. On l'écoute justement.
Mais c'est ça ma grande fierté, de vous avoir convaincu un par un d'embarquer dans cette belle aventure, faire avancer le Québec. Donc, pas de pause. Pas de prorogation. On fait avancer le Québec. Donc, on sort les journalistes, puis on se met... On se met au travail. Merci.
Au travail, la CAQ. Mais là, au travail, pas de premier ministre, une course à la chefferie. Juste hier, on a vu qu'on n'était pas au travail parce que Jonathan Julien a dit « Ben, vous savez quoi? Je vais attendre après le 12 avril avant de parler du troisième lien. » Mais là, il y a un budget qui est censé être déposé fin mars. On ne peut pas déposer un budget quand le premier ministre part deux semaines après.
C'est un peu bizarre, honnêtement. T'sais, oui, sur papier, il peut déposer un budget. Il est encore premier ministre. Mais dans les faits, si tu étais candidat à la chefferie, là, toi, là, t'aimerais-tu ça que le gars d'avant, l'ancien propriétaire, fasse un budget puis il me note tout ce que tu peux faire pour les 6 prochains mois? Non, mais
il les a pas consultés?
Ben, il peut les consulter, mais le problème, c'est qu'il pense pas pareil sur tout. Bernard Drinville et Christine Fréchette, il va pencher pour qui? Il va arbitrer comment? Donc, ça pose toutes sortes de questions. T'sais, honnêtement, je comprends un peu M. Legault et M. Girard parce qu'ils ne veulent pas donner l'impression qu'il n'y a plus de gouvernement au Québec. Okay? Puis je comprends cette préoccupation-là. Les agences de notation nous surveillent. On comprend tout ça. Mais c'est trop bizarre. Les arbitrages qu'il y a à faire font en sorte que non seulement au niveau stratégique, ce n'est pas une bonne idée de menotter le prochain chef, mais en plus, il risque d'avoir des situations qui découlent de tout ça. Les journalistes et les oppositions vont dire « Ah, M. Legault a penché du côté de M. Drinville. Ah, M. Legault, là-dessus, a penché du côté de Mme Fréchette. » Et les oppositions, ça donne déjà à cœur joie pour accentuer les divisions qui existent déjà. Fait que là, il semble qu'il y a quand même une réflexion en ce moment. On ne ferme pas complètement la porte à reporter le budget après la course à la chefferie. Il y a un autre élément que je voulais vous soumettre, c'est que je pense que M. Girard veut battre un record. Parce que je suis allée voir les ministres des Finances, disons, de l'histoire depuis les années 60.
Ouais. Ah, ça, j'adore quand t'arrives avec des affaires comme ça. Continue.
Bon, je fais mon palourde. Monsieur Parizeau, Jacques Parizeau, a été ministre des Finances de 1976 à 1984. Il a complété ses 8 années comme ministre des Finances. Monsieur Girard, s'il réussit à se rendre jusqu'à octobre prochain, va lui aussi atteindre le 8 années comme ministre des Finances. Donc, moi, je pense qu'il veut battre un record, M. Girard.
Éric Girard, le recordman aux finances du Québec où on va avoir enregistré le plus gros déficit de l'histoire. Ah non, pas le plus gros, les deux plus gros où on va avoir été décoté. Mais il va être dans le livre d'histoire. C'est-tu pas beau quand les gens se regardent dans le miroir et s'aiment?
Écoute, hein, quand on regarde juste la longévité, ça peut être impressionnant. Par contre, sur les déficits, évidemment, je pourrais argumenter avec toi pour justifier certains pans de tout ça, mais tout ça pour dire que des ministres des Finances qui ont duré pendant aussi longtemps, qui ont déposé 8 budgets, il n'y en a pas eu des tonnes. La longévité moyenne d'un ministre des Finances, là, c'est entre 2 et 4 ans. Donc, quand même, c'est notable. Puis là, évidemment, comme tous les politiciens, là, quand ça fait longtemps qu'ils sont là, qu'ils sont un peu usés, on les aime pas beaucoup. Puis les gens sont un petit peu tannés, je pense, de justement cet establishment caquiste dont on parle beaucoup ces temps-ci. Mais moi, je me demande, puis je vous pose la question, qu'est-ce qui sera retenu? Toi, Jeff, tu penses que ce qu'on va retenir d'Éric Girard, c'est les déficits?
Ben oui, les déficits, la décote.
La décote, il y en a eu à d'autres reprises aussi 418, dans l'histoire.
418-971-1021, qu'est-ce que vous allez retenir du passage d'Éric Girard comme ministre des Finances? Je veux vous lire.
Le hockey, les Kings.
Ah, les Kings! C'est un bon point, ça. Les
ça
Kings.
Va
ah, le fait qu'elle allait à New York rencontrer Gary Bettman.
Oui, qui a été ministre des Nordiques.
C'est vrai, aussi. Il a été ministre des Nordiques. Il n'a pas juste été ministre des Finances. Ah oui, ouais, qu'est-ce que vous retenez? 418-971-1021, la décote, les déficits, les Kings, Gary
T'as
Bettman.
Rien de positif à dire. Jeff.
Son appui à Christine Fréchette.
Oui, c'est ça l'affaire, c'est qu'on n'a rien de positif à dire sur Éric Girard. Puis ça fait 8 ans qu'il est là. C'est un signe que la CAQ a passé à côté de plusieurs dossiers.
Nomme-moi, attends, là, avant qu'on se raccroche, là, je veux que tu me nommes une bonne affaire d'un autre ministre des Finances.
Une bonne affaire d'un autre ministre des Finances. Hey, c'est vrai, c'est une bonne question. On chiale toujours après les autres, finalement.
C'est une job un peu ingrate, moi, je pense, en bout de ligne. Là. On ne retient pas des affaires bien ben positives des ministres des Finances.
Merci de m'en remettre à jour. Ah, c'est ça. Regarde, pratiquement en récession et 7 millions pour les Kings qui ressort présentement en majorité.
Bon.
Par texto, continue de nous écrire au 418-971-1021. Antonin Niaquereni, c'est toujours un bonheur de discuter, de débattre avec toi sur les ondes de Boulevard 102.1.
Plaisir partagé.
Yes, on se voit lundi, donc bon long week-end.
À lundi.
Salut!
Le midi.